C'est avant
Oui,
le.
alors. Ah, bon,
Ouais.
tu
Non,
vas.
non,
Allez.
je sais juste. D'accord. Alors, bah, ok. Alors, on avait dit qu'en fait, que en fait, Ménaché, il n'avait pas fauté parce qu'il ne savait pas, parce qu'il avait une erreur, parce qu'il pensait que il y avait du ribouille dans le monde. Non, il savait très bien la réponse. À tel point, il savait la réponse que quand il voyait une miche de pain, il savait tout de suite. Que tout de suite, ça lui faisait penser à la Bria Taola, mais la Emouna dans la redoute. Donc, en fait, quelque part, sa Emouna était incroyablement plus forte que la nôtre. Et quand même, il fautait. Alors Abachi dit, mais si c'est comme ça, mais pourquoi est-ce que. Ah, c'est lui. Pourquoi. Un deuxième,
Ah,
peut-être. Si Uda Kwan y vient, il faut en inventer un troisième. Pardon. Quoi? Alors, on dit comme ça, on dit Bifrat. Donc en fait, Ravashi, il comprend pas pourquoi ce que Ménaché il faute. Parce que pour lui, tu fautes un peu comme le Rambam. Le Rambam, il dit une idée, c'est débattable. C'est vrai que jusqu'à un certain point, que le chet, il est matsu que chez celui que son lèvre, il est panouï minachokma. C'est une idée qui est un peu l'idée, ça ressemble un peu à l'idée des Grecs qu'on ne pêche que par ignorance. Qu'en fait, si tu pêches, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Mais si tu étais conscient, tu ne fauterais pas. Et le Maharal, il dit, en fait, ça, c'est comme ça Ravashi y pensait. Donc il dit, Ménaché, c'est un plouc. S'il a fauté, c'est parce que pas un grand philosophe. Et Ménaché lui dit, mais moi, je suis tellement un grand philosophe que je suis capable d'appliquer cette philosophie dans ma vie. Je vois un bout de pain et je sais comment ça marche. Je vois le bout de pain, je pense à la Bria Taola. Je pense à la Ardout Hachem. T'achètes une baguette, tu penses à la Ardout Hachem? Non, tu te demandes est-ce que tu vas mettre du Nutella ou du beurre, quoi. C'est un peu ça le. Donc quoi? Voilà. Et lui, Ménaché, il voyait le pain, il disait non, non, moi je pense à la Ardout Hachem. Et pourtant, il a fauté. Alors, Ravashi dit, pourquoi tu fautes? Il dit, non, c'est à cause du Yetzer. Le Yetzer, il est tellement fort que c'était impossible de résister. Alors, il dit, pourquoi ce Yetzer plus qu'un autre? Parce qu'on a déjà expliqué que le Yetzer Hara, il attaque le peuple juif plus que les autres. Parce que le peuple juif, c'est un peuple très élevé. C'est un peuple il y a de l'élévation. Et là où il y a l'élévation, on avait parlé de ça. Là où il y a l'élévation, quelque part, il y a le vertige. Il y a le déséquilibre, il y a la chute. Celui qui aura des pâquerettes, il ne peut pas tomber. Il n'y a que celui qui s'élève qui peut retomber. Et donc, ils sont élevés, ils sont proches de Dieu, ils sont attachés à Dieu, ils sont dvekim b'Hashem. Et ça, en soi, c'est la raison que les Tzarara, ils s'attaquent à eux pour annuler ça. Comme on a expliqué. Pourquoi? Parce que la dvekut b'Hashem, c'est quoi? L'inverse de la dvekut b'Hashem, c'est la Avodah Zara. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple juif, il est élevé en cela qu'il est proche de Dieu, qu'il est d'avec Bachem. Et donc le Yetzer Hara, il va œuvrer à annuler ça. Comment est-ce qu'il va faire? Il va pousser le peuple juif à faire exactement l'inverse. Il va faire exactement. Donc comment c'est quoi exactement l'inverse de la dvekut Bachem? C'est la Avodah Zara. Ouais. Ah oui, parce que la proximité avec Hachem et l'inverse, c'est de mettre quelque chose entre moi et Dieu. Il y a autre chose, il y a un autre Dieu que je sers. Donc, mais ce n'est pas l'antithèse de la dvekut b'Hachem. C'est quoi, on peut avoir les deux? Mais ça, c'est une notion intellectuelle, mais dans les faits. J'en sois aussi long que possible parce que dans les faits, je sers une autre force. Donc, je suis plus d'avec Bachem puisque j'ai un autre maître. Donc, en théorie, je peux avoir comme Ménaché qu'en théorie, il comprend bien ces concepts-là, mais dans la pratique, le Yetzer Hara, il va le pousser. Le Yetzer Hara, il va le pousser à abandonner Hachem.
Est-ce qu'on ne sait pas, non? C'est quoi ça vous paraît, quand on entend un Avodah Zara, on a déjà l'impression que ce n'est pas des croyants. C'est quoi vraiment la Avodah Zara d'époque? C'est quoi? Ils croyaient en HM, mais ils servaient quelqu'un d'autre. C'est quoi? C'est plus fort, vous avez quoi?
Ouais, bah. Alors, pourquoi est-ce que c'est quoi la
C'est
Vodazara?
l'époque, non, qu'est-ce qui le séduit chez la Vodazara? C'est quoi?
Le Yetzer, ça c'est
Mais
un
ça, c'est
mauvais
quoi?
penchant.
Autour de ça.
Non, il n'a pas de retour. Le retour, c'est comme beaucoup de choses que tu fais parce que tu as envie, mais en fait, tu sais très bien qu'après, tu te sens vide. Le Yetzer,
T'as pas envie
le...
pour rien, t'es attiré par quelque chose, t'as envie, tout est
Il y a des
bête.
gens, ils sont attirés parce que, comme par exemple, il y a beaucoup de gens que dans leur vie, il y a beaucoup de gens que dans leur vie, ils font des choix stupides. Ils savent pertinemment que c'est des choix stupides. Mais ils n'arrivent pas à s'en empêcher parce que leur yetzer, il est trop fort. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on fait quand on a une dispute et qu'on entend, on entend la phrase, on entend la phrase de trop. Et on sait pertinemment qu'on devrait se taire. Et on ne peut pas. Et on embraye, on réagit dessus et l'engrenage infernal, il est lancé. On sait qu'on devrait se taire, on veut se taire. On sait très bien qu'une fois qu'on aura ouvert la bouche, on dira, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi j'ai ouvert la bouche? Pourquoi je n'étais pas plus grand que ça? Mais on n'arrive pas. Le Yetzer, il est trop grand. Là-bas, c'est quelque chose de psychologique. Mais le Yetzer, donc on voit que nous aussi, on fait des choses comme si on n'avait pas le choix, en fait.
Mais je
Quelque
vois pas un
part.
truc aussi beau que de la Vodazara.
Non, oui, mais il y a des gens, ils ont ruiné leur famille, ils ont ruiné tout, quoi, leurs enfants, parce que une fois, ils n'ont pas réussi à se la fermer. Une fois, ils n'ont pas réussi à se la fermer, donc. Ici aussi, le Yetzera, il est tellement fort que tout ce qu'il veut, le Yetzera, il y a une seule chose, il y a une seule chose qu'il désire au monde, c'est que toi, tu fasses la Avodah Zarah. C'est ça la seule chose qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu t'élèves, il voit que tu te rapproches de Dieu. Et donc, tout ce qu'il veut, c'est t'écarter de Dieu. Donc, il va mettre toute sa force dans la balance pour t'écarter de Dieu.
Quand tu dis la
Ouais.
Vodazara, c'est pas la Vodazara, la phrase de
Non,
Vodazara, c'est
non, mais je te
pourquoi
dis juste que
après.
tu vois bien que le Yetzerara, ce que je veux dire, c'est que le Yetzerara, il te pousse à faire des choses que tu sais que tu n'y gagnes rien, mais tu veux les faire.
Si elle n'est pas. Devant n'importe quoi, la vraie,
Bah, regarde, c'est quand même. Est-ce que.
ça
Alors.
va. Encore, Dieu, c'est dans. Tu n'as pas de réponse concrète. Comme si tu peux avoir la réponse que toi, tu as envie de
Je
faire.
peux te donner un exemple, une forme, je dirais pas de la Vodazara, mais il y a quelque chose. Quelqu'un, en général, en général, le moment où tu vas acheter un billet de loto, c'est les moments où financièrement, tu n'es pas au top. Il y a des moments où tu es un petit peu en galère et tu vas acheter le billet de loto. Et quelque part dans l'arrière de ta tête, tu dis, eh bon, ça va faire quelque chose. Et je vais acheter le billet de loto. Ouais. C'est quoi? Voilà, sur une erreur, ça peut marcher. Ça, c'est la même réflexion d'Avodazara. C'est vrai que Dieu, mais on ne sait jamais. C'est un espèce de pari. Ouais, c'est un espèce de pari. Ouais, mais on ne sait jamais. C'est vrai, je vais assurer mes arrières. Ouais, je vais un peu faire les prières à Dieu. Je vais donner de la tzedaka. Et puis après, je vais aller sacrifier une noix à je ne sais quelle, à je ne sais quelle déesse. Comme ça, je suis sûr que je suis couvert. Parce que peut-être, c'est ça qui passe dans ta tête. C'est comme quand tu joues au loto. C'est pertinemment que tu as aucune chance de gagner. Et tu dis, mais on ne sait jamais. Bah, la Vodazara, c'est le même fonctionnement. C'est comme ça que le Yetzer Hara marche. Il dit, c'est vrai que je sais dans ma tête que Dieu, il est seul et il est unique. Mais peut-être que si je sacrifie une noix à la déesse, je ne sais pas qui, Astarté, alors j'aurai la providence. Et c'est ça qu'il dit. Donc, c'est pour ça que le Yetzer Hara, c'était un Yetzer Hara qui était très fort dans le peuple juif. Et donc, il dit, parce qu'en fait, il y a deux Yetzarim qui sont fondamentaux. Il y a deux Yetzarim, quand on parle de Yetzara, il y a deux Yetzarim qui sont fondamentaux. Le premier, c'est le Yetzer de Arayot. Et le deuxième, c'est le Yetzer d'Avodazara. Et tout le reste, c'est que des dérivés. Tout le reste, c'est que des dérivés de ce Yetzer-là. Et donc, le Yetzerara d'Avodazara, c'est un Yetzera qui tire l'homme, justement, à être attiré à faire la Avodazara. Et ça, c'est un Yetzerara qui est intellectuel. Le Yetzerara d'Avodazara, c'est un Yetzerara intellectuel, en fait. Pourquoi? Parce que le peuple juif, il a une connexion qui est surtout intellectuelle avec Dieu. Et le Yetzer, il va détruire ça. C'est une force qui est là pour détacher le peuple juif de la Dvekout Bachem. Et ça, c'est ça. Donc le Yetzer Hara, il va agir d'abord sur le lien intellectuel qui est entre l'homme et Akadosh Baroukh Hou. Ce lien intellectuel, cette Dvekout Bachem, qui vécu principalement avec le Sechel, parce que notre Neshama, elle est très élevée. Donc si on est connecté avec Dieu, c'est surtout par notre intellect. Mais ça, et donc là, le Yetzer Hara, il va travailler sur ça, que intellectuellement, il va saper ce lien-là. Et après, mais sauf, il y a une deuxième chose, c'est que pour être d'avec Bakadosh Baruch Hu, faut que mon corps aussi soit matimassa, faut que ma gashmiut, elle soit appropriée pour servir Dieu, quelqu'un que dans sa gashmiut. Il a une approche au monde, au réel, au physique, qui est complètement, qui n'est pas appropriée du tout. Ben, il ne pourra pas être d'avec Bachem, il ne pourra pas être proche de Dieu. Tu ne peux pas être proche de Dieu dans les fêtes et dans tes actes, te comporter comme dernier des derniers. Ce n'est pas possible. Si tu veux être proche de Dieu, il faut avoir un corps pur. Il faut avoir un corps, faut avoir un corps qui est sain. Et donc, le Yetzer Hara, il travaille déjà. Le Yetzer Hara, il travaille déjà sur l'intellect, comme on a dit, qui cherche à. Que le Yetzer Hara, il cherche à nous détourner de la dvekout de Bachem de manière intellectuelle. Et après, d'un point de vue corporel, il nous attire qu'en fait, notre corps, au lieu d'être au service de Dieu, il devient au service de lui-même. Et qu'il tombe dans ce qui est le plus corporel qui soit, c'est le Yetzer. C'est le Yetzer des Arayot, c'est le Yetzer de la débauche. Et donc, en fait, le Yetzer Hara, pour détourner l'homme de Dieu, il agit sur deux plans. Premièrement, sur le plan intellectuel. Et en second lieu, il va travailler aussi sur le corps. Qu'en fait, quelqu'un qui est obnubilé par les plaisirs du monde, il peut pas être avec Bachem. Pourquoi? Parce que son. Comment ça marche? Moi, j'ai un corps et j'ai un Sechel. J'ai deux choses. L'homme, il est ambigu. Il y a le corps et il y a l'intellect. Et mon intellect, il est élevé. Mon intellect, en fait, c'est un produit de la Neshama qui est très haute. Mais pour en être conscient, faut que cette Neshama, elle puisse envoyer des messages aussi au travers du corps. Pour moi, je pense au travers de mon cerveau. Mon cerveau, c'est un organe. C'est quelque chose de corporel. Si mon corps, c'est un corps dévoyé, bah alors, y a, en quelque sorte, la Neshama, elle parle, mais le corps, il n'entend plus. Et la connexion ne se fait plus. Et donc, c'est pour ça que le Yetzer Hara, il agit aussi à ce niveau-là. Et c'est ça le moyen qu'il utilise, en fait, pour détourner l'homme de la dvekout Bachem, intellectuelle et corporelle. Ouais. Ça veut dire?
Et après, ça me déconnecte par rapport au déchet.
Mais c'est-à-dire qu'il y avait des gens, il y a des fois où d'abord, avant que quelqu'un y faute, il faut déjà qu'il y ait un rouar tout. Souvent, quelqu'un y faute que quand il y a une faiblesse intellectuelle aussi. Au niveau de son date, sa conscience des choses. Pas parce qu'il se trompe, mais sa conscience des choses. Des fois, on sait des choses intellectuellement, mais la conscience, l'éveil qu'on a à ces choses-là, il est faible. Donc, souvent, c'est plus facile de fauter quand dans notre tête, on est déjà fragile. Mais c'est vrai que des fois, le Tzara, il va d'abord travailler sur le gouf avant de travailler sur le Sechel. Mais souvent, c'est l'inverse. D'accord. Donc, ça, c'est la fin de ce pérec. On a expliqué en long, en large et en travers, en fait, que Bémet, la faute, elle est réelle. La faute, elle est réelle. Ça veut dire qu'on ne faute pas juste parce qu'on se trompe. On faute parce que le Yetzer Hara, il nous pousse à ça. Et pourquoi est-ce qu'il nous pousse à ça? Parce que c'est ça sa mission. Sa mission, c'est de nous faire tomber. Et donc, il suffit pas d'avoir une conscience intellectuelle des choses. Il faut tenir à ces choses-là parce que sinon, on faute. C'est un peu ce qu'on peut tirer de là. Et donc, pourquoi est-ce que les gens de l'époque sont tombés dans la Avodah Zara? Pas parce qu'ils avaient une quelconque déficience intellectuelle. Au contraire, leur connaissance était absolument supérieure à la nôtre. Mais justement parce qu'ils étaient grands, leur Yetzer Hara, il était très fort, et ce Yetzer Hara, il les a poussés à la faute. Voilà, ça c'est pour ce Pérec. Maintenant, on va commencer le quatrième Pérec. Alors, il y a marqué comme ça, fameuse Gemara. Dans le premier Pérec de Yoma, on dit comme ça. Migdash Rishon Mipnei Macharev. Le premier Beth Amigdash, pourquoi a-t-il été détruit? Mipnei Shayabo Gimel Dvarim. Il y avait trois problèmes dans le premier Beth Amigdash. Avodah Zara, Guilui Arayot et Shfichut Damim. Les trois péchés cardinaux. C'est-à-dire l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. D'où je sais ça? Avodah Zara, dirtiv, ki katsar amatsa meishtareya. Ouais. وي عبد الزهراء وده الجيلوليم ما فيش ما نقمني يديروا ربي يوحنا كي كيلو il n'y avait pas de place. Pourquoi il n'y avait pas de place? Parce qu'ils ont mis un Tselem Baïf al Kilou. Il n'y a pas dans le Beit HaMikdash pour ajouter quelqu'un d'autre. Ouais. Il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place pour la Shrina dans le. Donc on a. Il y avait plus de... Ils n'avaient plus de place. Pourquoi? Parce qu'on a mis un Tselem dans le Echal. Donc Kilou, il n'y a plus de place pour la Shrina. Ménaché. Dans le Echal. Ouais. Donc ça, c'est. Ça, c'est le premier aspect. Gilouy Arayot, Dirtiv, c'est aussi dans les Yeshaya. Dirtiv, Yad, qui gavou bnot Sion, va t'élachna les tuyaux de Garonne. En fait, les femmes juives, elles cherchaient par tous les moyens à attirer l'attention des hommes, on parle de femmes mariées, qui étaient absolument dans la séduction, qui avaient des raffinements dans la séduction. Ouais, par exemple, la Gemara, elle raconte là-bas que. Elles avaient dans leurs chaussures des petits compartiments avec du parfum. Et quand elles voyaient donc c'est des femmes mariées. Et quand elles voyaient un homme qui leur plaisait, elles tapaient le talon et ça dégageait une odeur. Donc il y avait vraiment une recherche de la débauche. Shfichut damim. Oui, bien sûr. À Yerushalayim. Le meurtre.
C'est-à-dire, non, c'est oui, c'est-à-dire, en fait, c'est comme si, comme si ils ne sont pas là-bas, en fait.
Ouais. Et la troisième chose, c'était Shfichut Damim, comme a marqué dans Melachim Bet. Vegam Dam Naki Harbe Shafak Menashe Meod. Menashe, il a versé beaucoup de sang. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a amené sur eux trois punitions contre les trois Averot, comme il a marqué dans Micha. Lachem Biglalchem Tzion Sadeh Techrash. Donc, Tzion, il sera labouré comme un champ. Yerushalayim Leihim. Et Yerushalayim, ce sera donc des ruines. Ve'arabait les Bamot Yahar. Et l'Arabait, il sera transformé en Bamot et en Yahar. Aval Migdashéni. Donc, dans le premier, il y avait des fautes et il y avait une punition. Il y avait de la Vodazara, il y avait des forêts, etc. C'était complètement détruit. Il y a une destruction totale. Et dans le deuxième Betamigdash, dit le Migmarash, Anoubekim Bahem. Chayouskim Donc, dans le premier Beit HaMikdash, il y avait des fautes claires. Il n'y a pas pire que ça. Les Gimel Chamourot, il y a Arek Valé Avor, tout ça est transgressé. On sait, alcool, Averot, chez Batora. Si on te dit, fais-le ou je te tue, il y a Avor, Veal, il y a Arek. Toute la Averot de la Torah, on te dit, transgresse ou je te tue, tu transgresses. Sauf trois Averot, que si on te dit, soit tu le fais, soit tu meurs, il vaut mieux mourir. C'est quoi? C'est Gimel, c'est Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodazara. Et ces trois choses-là, dans le Beit HaMikdash HaRishon, ils l'ont fait. Donc on sait pourquoi est-ce qu'ils ont été punis. Mais le Mikdash, dans le deuxième Beit HaMikdash, il n'y avait pas ça. Ils se oskim b'Torah, b'mitzvot, b'gmilut chassadim. Alors pourquoi est-ce que ça a été détruit? À cause de la Sinat Chinam. De là, on apprend, dit le Mahamar Chazal, chez Shkula Sinat Chinam, les gars de Gimel Averot. Sinat Chinam, c'est égal aux trois Averot. C'est Sinat Rinam à lui tout seul, c'est pire que Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Et dans le premier Beit HaMikdash, malgré tous leurs problèmes, ils n'avaient pas de Sinat Rinam. Ouais. Comme il ramène un pasouk. Mais Gouré Al-Khereb, Ayoub Atami, Rabbi Eliezer, il dit, c'est des gens qui ils mangeaient ensemble. Becharavot chez Bilshonam. Ah non, la Gemara demande, mais pourtant quoi? Il n'y avait pas de sinatrina, mais pourtant on dit qu'ils mangeaient ensemble et après ils se poignardaient. Quand on parle de se poignarder, c'est se poignarder métaphoriquement avec les mots. Donc on voit que oui, ils se massacraient avec leur langue. Non, ça c'était Nesié Israël. Mais le peuple, il était uni. C'est vrai que les leaders, il y avait des langues de vipères, mais le peuple, il était uni. Donc là-dessus, le Mamar Chazal est fini comme ça. Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer, Amré Tarvayu. Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer, ils disent tous deux, Rishonim shenit galé avonam, les Rishonim que leur faute elle a été explicitée dans des psukim comme on a vu, nit galé kitsam, leur fin elle a été dévoilée. Mais les derniers que leur faute elle n'est pas dévoilée, il a fallu une réflexion, alors la fin de la galoute, le ketz, il n'a pas été dévoilé. Les premiers on sait pourquoi, il y a trois, c'est clair, c'est évident. On ouvre la Torah, on voit, il y avait ces trois avérotes-là, ces béguilouilles. Puisque leurs fautes, elles sont béguilouilles, alors là, on sait aussi, c'est 70 ans. On sait aussi que la première galoute, c'est 70 ans. Pourquoi? Parce que tout le processus de la galoute, c'est un processus qui est clair, qui est évident, qui est explicite. Mais l'acharonim, le Bayit Sheni, qu'en fait, la faute, il faut la chercher parce que dans les psukim, ce n'est pas marqué. Ben en fait, la résolution de ce problème, c'est-à-dire la Géoula non plus, elle n'est pas claire. Ça, c'est le Mahamar Chazal. Et donc, le Maharal, comme à son habitude, il va explorer ce Mahamar, il va développer autour de ça. Ça, c'est le Mahamar brut. Le Maharal, comme d'habitude, il va s'attaquer au Mahamar et il va essayer d'expliquer chaque Nekouda. C'est pas juste parce qu'ils n'ont pas compris, c'est parce que c'est quelque chose de secret. C'est quelque chose de secret, c'est quelque chose de profond. Ça faudra expliquer aussi, mais ça, c'est ce que j'ai dit, ça c'est le Mahamar brut. Le Maharal, son boulot maintenant, c'est de prendre un Mahamar Chazal et de l'expliquer pas à pas. On va voir, à la fin du Pérec, il faudra voir est-ce qu'on a compris la réponse. Mais justement, le Maharal, chaque fois, tu vas voir, il amène un Mahamar Chazal et il va l'analyser étape par étape. Donc là, ça c'est le Mahamar Chazal. Et là, ça commence l'analyse du Maharal. Donc il va reprendre au début. Donc pourquoi est-ce que le Beth Amikdash a été détruit à cause de ces trois fautes-là? Et le Beth Amikdash HaShini à cause de Sinat Khinam. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que tu dis comme ça? Est-ce que tu vas dire qu'en fait, il s'est trouvé que Bebaïd Rishon, ils ont fait les trois Averot, et il s'est trouvé que dans le Beit Sheni, il y avait Sinat Khinam? Ça aurait pu être autrement. Ça aurait pu être que Bebaïd Sheni, il y avait les trois Averot, que Bebaïd Rishon, il y avait Sinat Khinam. Est-ce qu'on va dire que c'est un micré? Ça s'est trouvé comme ça. Voilà, c'est-à-dire, historiquement, le fait est que, est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Ou bien non, en fait, fondamentalement, le Beit Rishon, il y avait un problème que depuis le début, tu savais que c'est comme ça, quelque part, il était prédestiné à être détruit comme ça. Est-ce que le Beit Sheni, il a un problème de fond depuis le début qui va amener à Sinat Rinab? Est-ce que c'est juste des événements ou il y a quelque chose ici de systématique? Ça, c'est la première question. À part ça,
C'était qui? Il y avait un roi qui était là, qui avait pris le premier, c'est Menaché, c'est ça, qui a fait basculer.
ça c'est dans Beit Rishon.
Mais je sais.
Voilà. Il dit à part ça, les trois avérotes qu'on a dit dans Beit Rishon, elles ont un point commun. C'est quoi? Comme on a dit, que sont Béyarek Baléavor. Si on a le choix entre transgresser ou mourir, il faut mourir. Et pourquoi, comme on a dit, pourquoi ces trois avérotes-là d'Avka? On les a retrouvés dans la description, dans la destruction. Pourquoi ces trois-là? Il y a trois avérotes dans la Torah qui sont Béarik Vayavor, et ces trois-là, on les a retrouvés dans le Korban. Pourquoi ceux-là et pas des autres? Donc on a deux questions. Pourquoi est-ce qu'on a vu que à l'époque du Beit Rishon, il y a eu un processus qui a amené aux trois avérotes, et des trois avérotes, on est arrivé à la destruction, mais Beit Sheni, on n'a pas eu une redite du premier temps. C'est une nouvelle histoire. Mais ce qu'on a trouvé, c'était complètement autre chose. Et est-ce que c'est quoi ces sinatrinam? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que la première fois c'était comme ça, la deuxième fois c'était comme ça? Et pourquoi dans Beit Rishon, c'était ces trois fautes-là qui en particulier plus que d'autres? Alors il dit l'explication c'est comme ça. Le premier Beit HaMikdash, il y avait la Shrina. Le premier Beit HaMikdash était absolument supérieur au deuxième, que la Shrina elle était là-bas. Le feu sur le Mizbéach, il était en forme de harie. Le feu sur Mizbéach est en forme de lion, comme si la Shrina était vraiment présente. Et donc, c'est quoi le Khorban du Beit Rishon? Donc, si le Beit Rishon, c'est ce qu'on appelle Ashrat Ashrina, c'est la présence de Dieu. Donc, la destruction du premier temple, c'est la fuite en quelque sorte. C'est à partir du moment où le peuple juif, il n'est plus digne d'héberger, d'accueillir la Shrina. Donc, c'est comme ça qu'il y a une destruction de ce que le premier temple est. Si le premier temple, ce qu'il est, c'est la présence divine. Donc, si le peuple juif, il arrive à ne plus être digne de la présence divine, donc le premier Beit Hamikdash, il n'a plus de sens. Il perd son sens et il est détruit. Ouais. Pourquoi? Parce que, donc, et quand c'est ça, que le peuple juif est plus digne d'héberger le peuple, d'héberger la Shrina, c'est quand ils ont rendu impur le Beit Hamikdash. Et quand le Beit Hamikdash, il est impur, Hashem Yitbarach, il est plus présent. Ouais. Ah, il y a marqué, c'est quand, c'est Béchoguet, quand la faute elle est involontaire, alors Dieu lui pardonne. Mais quand l'impureté elle est volontaire, Dieu ne reste pas. Et parce que le Beth Amikdash, c'est quelque chose qui a une raison d'être. Le Beth Amikdash, c'est la manifestation physique d'un principe spirituel. Le Beth Amikdash, c'est la manifestation du fait que Dieu il est présent. Et donc, si Dieu il est plus présent, c'est un édifice qui, en fait, il est vide. Et puisque c'est comme ça, alors, plutôt que de continuer à croire qu'il se passe quelque chose, Hachem, il le détruit, comme ça, on est clair que ça y est, c'est fini. Mais la première étape de la destruction du temple, c'est qu'il devient une coquille vide. Alors après, peut-être que la coquille vide, elle aurait pu rester. Mais si on reste avec une coquille vide, on s'imagine que tout va bien. Donc Dieu, il l'a détruit pour qu'on comprenne qu'en fait, c'était déjà mort. Ouais, c'était déjà mort. C'est un endroit qui est mort. C'est quelque chose que tous les endroits qui sont morts, ils finissent par se détruire.
Et tous les moutons, quand je parle de Harry, donc ils se sont estimés avant les moutons,
Oui, en fait, oui.
parce que oui, la description, ça prend.
Alors, on va rentrer là-dedans. Mais donc, pourquoi ces trois avérotes, elles sont génératrices de Touma? Il y a marqué Vechiper à la Migdash mitumat bnei Israël. C'est quoi? C'est Avodazara. Ouais. Dirtiv, les man tamet Migdashi. Si on fait la Avodazara, on est métamé le Migdash. Giloui Arayot, velo tasumi kolate evot, velo titameu bekolele shfichut damim, velo tetamu et aret asherani shochenba. Si on tolère les assassins, alors on rend impur la terre. Donc en fait, ces trois avérotes, c'est des avérotes qui ont ça de particulier, qu'elles introduisent la Touma dans le peuple juif et encore plus dans le Beth Amikdash particulièrement. Et donc, puisque ces trois avérotes, elles étaient monnaie courante dans le peuple juif, donc forcément, ce qui existe à l'extérieur finit par pénétrer à l'intérieur. Et quand les gens ils rentraient au Beth Amikdash, ils rentraient avec cette Touma-là. D'ailleurs, il y a eu des meurtres, il y a eu le Nabi Zecharia qui a été tué, etc., etc. On a dit que Ménaché l'a fait rentrer un tselem dans le Echal. Donc, en fin de compte, la Touma, elle a fini par pénétrer. La Touma, au début, elle est périphérique, elle est en marge. Et après, même quand on rentre dans le Beth Amikdash, on a tout ça. Ouais, on peut s'imaginer aussi ces dames qui allaient au Beth Amikdash pour voir, pour le régal, etc., et qui étaient dans la séduction. C'est-à-dire que tu vas au Beth Amikdash, et à ce moment-là, t'as un comportement qui est pas approprié. Donc en fait, la Touma était tellement démocratisée dans le peuple juif qu'en fin de compte, ils ont fini par la faire pénétrer dans le Beth Amikdash lui-même. Et donc à partir du moment où il y a de l'impureté dans le Beth Amikdash, Dieu y reste pas. Et donc puisque Dieu y reste pas, alors il détruit. Donc maintenant on comprend aussi pourquoi est-ce que ces trois avérotes, elles sont Baharek, Baliavor. Pourquoi? Oui, pourquoi ces trois avérotes plus que les autres? Parce qu'en fait, nous on est là pour faire résider Dieu sur terre. Et ces trois mitzvot, ces trois avérotes, c'est l'antithèse de ça. Les autres avérotes, c'est un problème, mais ça ne fait pas fuir la shrina. Ça, c'est trois avérotes que celui qui les fait, lui et la shrina, ils vivent plus dans le même code postal. Donc, si tu fais ces trois avérotes-là, le monde, il ne mérite même pas d'exister. Le monde, il a été créé pour qu'il y ait la shrina sur terre. Toi, tu fais des choses qui font fuir la shrina, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Donc, vaut mieux mourir. Vaut mieux mourir. Pourquoi? Parce que ça fait fuir la shrina. Mais en même temps, puisqu'il y avait la shrina, le Yetzer Hara, il a travaillé pour faire fuir la shrina. Donc il a poussé le peuple à ces fautes-là. Mais dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas la shrina. Tellement tant que ça. On dit que la shrina, le feu sur le Mizbéach, il avait une forme de chien. La shrina n'était pas vraiment présente dans le deuxième Beth Amikdash. Il n'y avait pas les Ourim Vetoumim. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas là dans le deuxième Beth Amikdash. Oui, mais
Pas avec la même
il y
présence.
avait, ils n'ont pas réussi, les peuples juifs n'ont pas réussi à avoir la même présence. C'est un autre mode. Le deuxième Beth Amikdash, c'est autre chose que le premier. Le premier Beth Amikdash, c'était Veshachanti Betocham. Le deuxième, c'était quelque chose de plus compliqué. C'est après Megillat Esther, Vanochi Aster Asir Panayim. C'est-à-dire qu'il y a une histoire avant Megillat Esther et une histoire après Megillat Esther. Et c'est une autre modalité. Il n'y avait pas la Shrina. Ouais. Alors, c'est quoi pourquoi il y avait le Beth Amikdash? Qu'est-ce qui fait le deuxième Beth Amikdash? Le premier Beth Amikdash, c'est la présence de Dieu. Alors, c'est quoi le deuxième Beth Amikdash si ce n'est pas la présence de Dieu? C'est le fait que le Beth Amikdash, La maladie du deuxième Beth Amikdash, c'est une maladie du peuple juif. Pourquoi? Parce que grâce au Beth Amikdash, le peuple juif, il se rassemblait en un seul endroit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un Kohen Gadol, ils avaient un Mizbéar, il n'y avait pas de Bamot. Et donc, le Beth Amikdash, il servait de lieu de culte à tous les juifs où ils se rassemblaient. Donc, en fait, il n'y a pas la Shrina, mais sa Mahala, c'est que c'est un endroit qui rassemble. Et ça, c'est ça qui était particulier dans le deuxième Beth Amikdash, que ça rassemblait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Et on va expliquer ça après. Que le Beth Amikdash, c'est par le Beth Amikdash que le peuple juif, il est unifié. Et donc, à cause de ça, à cause de ça, le deuxième Beth Amikdash, le Yetzirah, il a travaillé sur quoi? Sur la Sinatrinam. Et donc, le seul truc qu'ils pouvaient, ils auraient pu faire toute la Averot du monde, ça n'aurait pas détruit le deuxième Beth Amikdash, parce que tant qu'ils étaient unis, alors c'est à ça qui sert le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est le facteur rassemblant du peuple juif. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais tant qu'ils sont rassemblés, le Beth Amikdash n'est pas détruit. Mais à la seconde où il y a la Sina, c'est-à-dire qu'il y a la division, alors le Beth Amikdash, il a plus sa qualité, puisque sa qualité, c'est un endroit rassembleur. À partir du moment où il ne rassemble plus, ben, il a perdu sa raison d'être, il a perdu son essence. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a que la Sinatrinam qui pouvait détruire le deuxième temple. Et à part ça, c'est pour ça que le Yetzer Hara, il a travaillé là-dessus plus que toute autre chose. Parce que puisque le Beth Amikdash, il existe pour rassembler, alors si on divise, il n'y a plus de Beth Amikdash.
Dans ce que d'achat, il y avait trois votes.
Non, il y avait moins. Il y avait moins.
Il y avait.
Non, on
Mais
va
si
dans.
ça pensait quoi, il n'y avait pas la Shrina.
Mais c'est pas seulement ça, c'est que du coup, puisque le Beth Amikdash, il n'était pas un endroit de Shrina, le travail du Yetzer Hara, c'était de diviser les gens.
Ça. Si tu faisais un ça n'avait pas la même importance que cette finale. Parce qu'il n'y a pas de Shrina.
Oui, et donc, comme il va expliquer maintenant, on va voir que. Voilà. Donc, il continue. Donc, d'après ce qu'on a dit, on peut y rajouter ça, que dans le premier Beth Amikdash, puisque à cause de leur Mahala, alors il va rajouter encore une autre Nekouda, c'est que le Yetzer Hara, dans le premier Beth Amikdash, il y avait Asherat Ashrina. Et donc, ça veut dire quoi, Asherat Ashrina? Ça veut dire que moi, Veshachanti Betocham, Betor Kol Echad Ve'Echad. C'est-à-dire qu'en fait, chaque juif, c'était un homme. Vraiment, qui était un homme qui était Merkava Lashrina, quelque part, qui était le support de Dieu. Et qu'est-ce que le Tzara, il a fait? Il a cherché à détruire, il cherchait à détruire l'homme en lui-même. Puisque chaque homme, il était Mishkan, ouais, un lieu de résidence pour Lashrina. Donc le Tzara, il a cherché à détruire l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que les trois Averot, elles ont trait à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il a trois Kochot. Il a l'intellect avec lequel il connaît. Il a la force vitale qu'il dirige, les instincts, etc. Et il y a le fait que j'ai des muscles, que je suis fait de chair et d'os, et que ces choses-là aussi, elles ont une force. Ouais. C'est-à-dire le fait que je puisse bouger, mais on peut avoir un bébé, il peut bouger, mais il n'a pas le même corps qu'un adulte. Il a le même nefesh. Il a la même vitalité. Un enfant, ça bouge énormément. Mais quand il tire les cheveux, ça fait beaucoup moins mal qu'un adulte qui tirait les cheveux. Pourquoi? Parce que le corps, il a une force. Il y a la vitalité, mais le corps en lui-même, il a une force. Et les trois avérotes, elles ont trait à ces trois choses-là. La Avodah Zara, c'est une faute à l'intellectuel qui croit en quelque chose de faux. Guiloulé Arayot, ça a trait au corps. Ouais. C'est-à-dire qu'il dévoile le corps en ce qu'il a de plus vil. Et la Shfichut Damim, c'est qu'on prive le corps de sa force vitale. Ouais. Que je suis chauffer d'âme nefesh à Adam. Verser le sang qui a d'âme ou à nefesh. Donc je m'attaque. Quelqu'un qui tue, c'est quelqu'un qui respecte pas le nefesh qu'il y a dans le corps. Et donc ceux qui fautaient, ces fautes-là, le résultat, c'est qu'en fait, l'homme, il cesse d'être un homme. Ouais. Il cesse d'être un homme. Les hommes étaient très grands. Alors, Yetzer Hara, il voulait faire d'eux des hommes minables, des non-hommes. Encore une fois, puisque l'homme, il est grand, alors le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire de cet homme un moins que rien. Comment est-ce qu'on fait d'un homme un moins que rien? En corrompant tout ce qu'il a d'humain en lui, ses qualités humaines, c'est ça qu'on va pervertir, c'est ça qu'on va corrompre. Ouais. Mais dans le deuxième Beth-Amikdash, l'individu n'était pas tellement grand. Et comme on a dit, plus on est grand, plus on est fragile. Mais dans le deuxième Beth-Amikdash, chaque homme individuellement, il n'était pas tellement grand. C'est pas comme au premier Beth-Amikdash. Au premier Beth-Amikdash, il y avait des Nevi'im, il y avait des Bnei-Nevi'im, chaque homme, c'était qu'un cas. Deuxième Beth-Amikdash, les gens, ils étaient pas très grands. Et puisqu'ils n'étaient pas très grands, ils n'étaient pas très fragiles. Alors, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient? C'est que moi, en tant qu'individu, j'appartiens à un peuple. C'est quoi ma mahala de juif? Moi-même, personnellement, je suis pas très grand. Mais alors, c'est quoi ma mahala? C'est quoi ma qualité? C'est que j'appartiens au peuple juif. C'est ça qui fait quelque chose. C'est ça qui fait de moi quelqu'un de spécial. Le fait que je suis. Pourquoi je suis pas comme tout le monde? Ouais. Asher bachavanu mikol ha'amim. Que j'appartiens au peuple juif. Et c'est ça qui fait de moi quelqu'un d'élevé. Alors, Yetzer donc, puisque c'est ça ma qualité. C'est là que ma fragilité, elle est. En quoi je suis fragile? Pas en tant qu'individu. En tant qu'individu, je suis personne. Mais en tant que membre du peuple juif, je suis quelqu'un. Donc, le Tserara, il va travailler là-dessus. Il va essayer de me séparer du peuple juif. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, ça a aussi trait à l'homme. Mais il y en a. Les trois fautes, elles attaquent l'homme en ce qu'il est homme. Et donc, après, il reste plus rien. Un homme qui transgresse ces trois avérotes, c'est plus un homme. Mais pourquoi est-ce que le Tserara, il travaillait? Parce qu'il avait. Parce que ces hommes-là, c'était des hommes grands. Et comme on a dit, plus on est grand, plus on est fragile. Mais dans le Beth Amikdash Sheni, il n'y avait pas d'hommes. Ouais, mais il y avait un peuple. Et il y avait des gens qui appartiennent à un peuple. Et quand ils sont tous ensemble, alors c'est Am Echad, c'est un peuple unique. Et du coup, chaque individu, il est soulevé par le peuple. Mais quand il y a la haine, le Am Echad, il n'est plus là. Et donc, chaque individu, il revient nul.
Ouais, dans le deuxième, il n'existe pas tout seul.
L'individu n'existe pas tout seul. Il n'existe que par le peuple. Et si à la Sina, il n'y a plus de peuple, et donc l'homme, il redevient nul. Donc encore une fois.
C'est du truc.
Mais de
Parce
façon,
que la Sina.
oui, mais c'est le fondamentalement, le meurtre, il n'a pas de trait à la Sina. C'est entre deux personnes. La Sina, c'est quelque chose qui
Ça
dit.
se propage.
Oui, mais ça a aussi trait au fait qu'en fait, toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. C'est quelque chose, la Sina. Elle a trait au fait qu'on ne partage rien. Le meurtre, c'est un événement. La sina, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'en fait, toi et moi, on n'est pas frères, on n'a rien en commun. Donc, la sina, fondamentalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle divise. Et quand il y a la division, je ne vaux plus rien. Pourquoi? Parce que je ne vaux que quand je fais partie d'un peuple. Voilà. Ça, c'est donc, c'est ça l'idée qu'il dit ici. Donc, on a déjà dit deux idées. Première idée, c'est que le premier Beth Amikdash, c'est Shrina. Et donc, comment est-ce qu'on fait fuir la Shrina avec la Touma? Deuxième Beth Amikdash, c'est Am Israël. Et donc, quand on casse l'Am Israël, on casse le deuxième Beth Amikdash. C'est la première idée. Après, il a dit une deuxième idée. C'est que dans le premier Beth Amikdash, les gens étaient grands. Donc, le Yetzer Hara, il cherchait à détruire les gens, en ce qui, les hommes, en ce qu'ils étaient hommes. Par contre, dans le deuxième Beth Amikdash, les hommes. Ils étaient médiocres, mais ils étaient grands parce qu'ils appartenaient au peuple juif. Donc le Yetzer Hara, il a essayé de détruire leur appartenance au peuple juif. Comment? En sapant l'ardou du Ham Israël. Mais c'est deux idées.
Les deux, c'est dans deux, non?
C'est deux prinotes, c'est deux points de vue. Il y en a une que tu regardes vis-à-vis du Beth Amikdash, il y en a que tu regardes vis-à-vis de l'individu. Première explication, c'est vis-à-vis du Beth Amikdash. Et la deuxième, c'est
Il y en a,
vis-à-vis de
il a la
l'individu.
Shrina, donc pour que ça se fasse, c'est trop l'autre.
Everot.
L'autre, il a la Shrina, donc leur force.
La
Ils sont
force.
ensemble, et c'est la
Mais après, on n'a plus parlé du Beth Amikdash. On parle même de l'individu. Le deuxième chat, c'est qu'en fait, c'est pas juste le Beth Amikdash, mais l'individu. Dans le premier, chaque homme, il était grand. Mais on ne parle plus du Beth Amikdash, on parle de l'homme. Premier. Au début, il a parlé du Beth Amikdash. Et il a dit, mais en fait, si tu regardes cette distinction qui existe entre Beit Rishon et Beit Sheni au niveau du Beit HaMikdash, elle existe aussi au niveau de l'homme, de l'individu. Chaque individu, quelque part, il a l'image de son Beit HaMikdash. D'accord. Donc maintenant, on va dire encore une troisième idée. Et encore une autre chose. Que ce qu'on a dit que le Mikdash Rishon a été détruit par ces trois fautes-là, et le deuxième Beit HaMikdash est Sinat Khinam, ou Davar Nifla. C'est quelque chose de Nifla. Il va dire des choses très profondes. C'est quoi? Car il faut savoir que de la même manière qu'il y a beaucoup de créatures dans le monde, Il y a beaucoup de créatures, il y a des lions, il y a des panthères, des hippopotames, des rhinocéros, que sais-je. Ouais. Et pourtant, il a choisi l'homme pour le servir. Et l'homme, il a été choisi plus que tout ce qui existe sur Terre. De la même manière, il y a beaucoup d'endroits dans le monde. Il y a un seul endroit qui a été choisi, et c'est le Beth Amikdash. Et de la même manière que, puisque l'homme, il a été choisi pour servir Dieu, alors il lui a insufflé un nitzot, une étincelle de son kavod. On pourrait parler longtemps de ça. Mais quand on dit, bah, voilà, quand on parle du kvod Hashem, bah, il y a une étincelle de ça qui existe dans l'homme. Il me semble qu'il y a une phrase. Il y a une phrase dans le Tanya qui dit que dans la Neshama, c'est Chelek Elokam Imal Mamash. C'est qu'il faut comprendre, c'est des choses fines. Mais il y a quelque chose d'absolument divin en nous. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a en nous? Une partie du kavod d'Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'il y a du kavod d'Hachem en nous? Ça veut dire que toute chose, elle a une présence. Toute chose qui existe, elle a une présence. J'existe et en conséquence du fait que j'existe, j'ai une présence. Par exemple, l'habit, on appelle ça un mechabdotai. Pourquoi? Parce que ça me permet d'être présent. Parce que j'ai des habits. Je peux sortir, je peux être présent et plus mieux je suis habillé, meilleure ma présence. Donc le kavod, c'est la présence. Il y a l'être et il y a la présence. Ça, c'est le kavod. C'est quelque chose qui pèse, c'est l'importance. Et Dieu, il est présent dans le monde. Comment est-ce qu'il est présent dans le monde? Comment est-ce que sa présence, elle se fait sentir? Par les hommes. Les hommes, ils permettent à Dieu d'être présent dans le monde. Dieu, il est là. Mais est-ce qu'il y a une présence? Ouais, comme des fois, on voit certains rabbanim ou la Avdil, certaines personnalités, que quand ils rentrent quelque part, tu as tout le monde qui s'arrête. On dit qu'ils ont une présence. Ouais, ils ont une présence, ils ont une présence. Donc il y a des fois, il y a des gens, ils rentrent et tu sais pas, et tu tournes la tête et tu dis, ouh, c'est qui lui? Ce n'est pas quelqu'un de lambda, c'est une présence. Dieu, voilà, ça c'est le kavod. Et le kavod, en fait, c'est reconnaître ça. Donner du kavod, c'est reconnaître la présence de quelqu'un. Dieu, Kamouvan, qu'il est, on peut même pas dire qu'il est, mais il est absolument là, Ayahoveveiyeh, mais il a un kavod. C'est ça qu'on dit d'abord Shema Israël, après on dit Baruch Shem Kevod. Ouais, c'est après. Le kavod, c'est ce qui émane, c'est ce qui émane de ça. Et comment est-ce que c'est comment ça émane? Par l'homme, parce que en l'homme, il y a la présence divine. Dans l'homme, la présence divine se fait sentir, par l'homme. Et donc, il a mis la Neshama, c'est cette présence divine. De la même manière, Hachem, il a fait rayonner sur le Beth Amikdash son kavod. C'est-à-dire que de la même manière que chaque individu, par chaque individu, se révèle la présence divine, il y avait un endroit de présence, il y avait un endroit où la présence divine se fait sentir. Et c'est pour ça que le Echal HaKodesh, qui est sanctifié pour Hachem, en fait, ça ressemble à l'homme. Au sein de l'homme, il y a une Neshama. Au sein du Beth Amikdash, il y avait Kvod Hashem. En l'homme, il y a le Kvod Hashem. Et dans le Beth Amikdash, il y a le Kvod Hashem. Et on avait déjà vu, c'est ça qui dit le Maharal, c'est qu'il y a un écho entre le Beth Amikdash et l'humain. Et c'est ça que Chachamim, ils ont dit. Tout homme qui a date, qui est dans l'état, qui a la connaissance, c'est qu'Elou, le Beth Amikdash a été reconstruit dans ses jours. Et ça, ce n'est pas une idée qu'il va développer ici, il va la développer ailleurs. Mais l'homme, c'est un Mikdash Me'at. Chaque homme, c'est une idée qu'on trouve partout. Même le Rambam, il le dit. Chaque homme, c'est quelque part un Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a le Kvod Hashem. Et dans l'homme, il y a trois choses. Il y a trois machanot. C'est quoi ces trois machanot? Alors, il dit comme ça. Il y a la force naturelle. Et qui, à l'époque, on pensait qu'elle se trouvait dans le foie. C'est en fait ce qui fait croître l'homme. Ouais. En fait, un homme, il y a une croissance. Et il y a quelque chose dans l'homme, il y a un organe qui est responsable de la croissance. Lui dit que c'est le foie, je ne sais pas si la médecine moderne sera d'accord, mais il y a une force. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la croissance. Il y a quelque chose qui est du cœur. Et le cœur, en fait, quand on dit la jalousie, c'est dans le cœur. La haine, je haïs dans mon cœur. Et ça, c'est universel à la majorité des langages. C'est que les sentiments de ce type-là, ils sont affiliés au cœur. Quoi? Mais en fait, si tu
Non,
regardes, la haine, on la ressent physiquement. On
mais en fait.
tu la ressens, c'est-à-dire que même l'angoisse. Non, mais c'est-à-dire que en fait, c'est tellement fort, ces sentiments-là, ils donnent, tu les ressens physiquement. Quelqu'un qui est dans l'angoisse,
Le ressent
il
pas
a une pression
physiquement.
ici. Il a une pression thoracique. Quelqu'un qui est dans la haine, il le ressent dans ses tripes, dans le cœur. C'est pas pour rien. Et dans tous les langages, le cœur, c'est le siège des sentiments. Il faudrait réfléchir comment ça se fait, mais c'est un fait. Et il y a une troisième chose, il y a l'intellect qui est dans le cerveau. Et le Beth Amikdash aussi, il y avait trois machanot. Dans le Beth Amikdash, il y a trois endroits. Il y a Machane Israël. Il y avait, dans le Beth Amikdash, il y avait trois endroits. Il y avait Machane Israël, c'est l'endroit où ce qui est commun à tous les peuples juifs. Il y a Machane Levia et il y a Machane Shrina. C'est quoi? Machane Israël, c'est Yerushalayim. Et de là-bas, il y avait une boucha particulière que le Metsora, il devait sortir de Yerushalayim. Il y a Machane Levia, ça c'est Arabaït, que tout celui qui est tamé, sauf quelqu'un qui a touché un mort, il doit sortir du Arabaït. Et Machane Shrina, c'est tout ce qui est l'intérieur du Beth Amikdash, que là, tout celui qui est tamé, il devait sortir. Et si on regarde dans le cerveau aussi, il y a trois aspects à l'intellect, etc. Mais on ne va pas parler de ça. Ouais. Et donc, en fait, ce qu'il veut dire ici, c'est que de la même manière que dans Yerushalayim, il y avait trois étapes, il y avait trois niveaux. Il y avait tout Yerushalayim et une Kdusha. Mais c'est une Kdusha qui est vaste, c'est une Kdusha de périmètre. Et de là-bas, il n'y avait que le Metsora qui devait sortir. Il y a le Harabait. Le Harabait est plus Kadosh que Yerushalayim. Pourquoi? Parce que tout celui qui est tamé, à part celui qui est tamé la Nefesh, celui qui a touché un mort, mais celui qui est Baal Kéri, Ezav, etc., il devait sortir du Harabait. Et il y a Machane Shrina, le Beth Amikdash à proprement parler, qui lui était très kadosh, qu'aucun tamé ne pouvait s'y trouver. Et là-bas, il y a quoi? C'est quoi la Machane Shrina? S'il y a trois étapes. Même dans le Machane Shrina, il y a trois étapes. Il y a la Hazara, il y a la cour, il y a le Echal, le Kodesh, et il y a le Kodesh à Kodashim. Et chez l'homme aussi, dans le cerveau de l'homme, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a trois camps, et dans le camp de la Shrina, il y a trois niveaux. Même dans la Kedusha ultime, il y a trois étapes. La Hazara, là on faisait les Korbanot. Le Echal, c'est là où il y a la Menorah, le Mizbeach Hazah avec Shulchan. Et il y a un endroit qui est encore plus Kadosh, c'est quoi? C'est le Kodesh à Kodashim. Ouais. Et donc, en fait, il y a ça qui dit le Maharal, c'est qu'il y a une résonance parfaite entre l'homme et le Beth Amikdash. Et alors? Et donc, c'est normal qu'en fait, de la même manière que le Yetzer il cherche à détruire le Beth Amikdash, il cherche à détruire l'homme, parce qu'en fait, le Beth Amikdash, c'est l'homme, et l'homme, c'est un Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il a l'image de l'homme, et l'homme, c'est un Beth Amikdash. Donc, si je veux détruire le Beth Amikdash, mais que je laisse l'homme tranquille, je n'ai pas réussi mon coup. Puisqu'en fait, chaque homme, c'est un Beth Amikdash. Et si je casse l'homme, alors je casse le Beth Amikdash, puisque ça va de pair. Donc en fait, on fait les deux en même temps. Et c'est pour ça que casser l'homme, il a été détruit de la même manière que le Beth Amikdash. Ouais. Mais il ne faut pas en déduire, dit-il, qu'il y a trois âmes, ouais, chez l'homme. Mais non. C'est qu'il y a une seule âme, mais il y a trois aspects à la Neshama, dit-il. La Neshama, elle a trois aspects, elle a trois effets, et la Neshama, elle agit à différents moments, à différents endroits. Ouais. Voilà. Et il dit, en fait, on dit qu'il y a la Neshama, elle agit sur trois niveaux chez l'homme. C'est une âme. Mais de l'âme, c'est-à-dire que l'âme, le fait qu'on ait une âme, c'est ça qu'il dit. Alors, il dit comme ça. Il dit en fait, l'âme, elle a deux aspects. La première, c'est que elle agit sur le corps. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, elle agit, la neshama, elle agit sur le corps, elle agit sur les sentiments, elle agit sur l'intellect. Donc en fait, la neshama, c'est une seule chose, mais elle agit dans trois endroits différents. La Gemara elle dit que la Neshama n'a pas l'image de Dieu. Quelque part, il y a un dimion, que Dieu il est Echad, Mais il a des différents comportements. Des fois, on l'appelle Hachem, des fois, on l'appelle Elohim, des fois, on l'appelle Kel, des fois, on l'appelle Shakai. La Neshama aussi, la Neshama, elle est une. Mais selon les endroits, elle va agir différemment. Elle va agir sur l'intellect, elle va agir sur les sentiments, elle va agir sur le corps. Et donc, en fait, quand on regarde du point de vue des résultats, il y a trois aspects. Mais si on regarde la Neshama elle-même, elle est unique. Ouais, c'est pas que la Neshama, elle est en morceaux. La Neshama, c'est pas des Legos. Ouais. La Neshama, elle est d'une pièce, à l'image de Dieu. Ouais. Mais quand on regarde l'impact qu'elle a sur sur l'homme, elle impacte l'homme à trois niveaux différents. Mais il faut pas croire qu'on a trois Neshamot. Quand on dit Nefesh, Ruach, Neshama, c'est pas qu'en fait la Neshama, elle est en morceaux. C'est qu'en fait, la Neshama, elle agit à trois étapes différentes. Elle agit à trois niveaux différents. Mais c'est la même. C'est la même Neshama. Elle est d'un bloc. Mais nous, on perçoit trois effets différents. D'accord. Et donc, en fait, il dit, il y a la Neshama du point de vue de ses effets, et il y a la Neshama telle qu'elle est. Et alors, il dit, il y avait aussi deux Beth Amikdash, il y avait deux Beth Amikdash. Ouais. Le premier Beth Amikdash, c'était un Beth Amikdash où ça s'exprimait de la même manière que la Neshama s'exprime dans le corps, la Shrina elle s'exprimait dans le monde. Et c'était un endroit d'expression de la Shrina. Ouais. On dit la Neshama elle s'exprime dans l'homme. Et la Shrina, elle s'exprimait dans le monde. Et de la même manière que la Neshama, elle s'exprime dans l'homme de trois manières, de la même manière, la Shrina, elle s'exprimait dans le monde de manière très différenciée dans Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait voir non seulement la Hashrat HaShrina, mais l'impact qu'elle avait dans le monde. Quand on allait au Beth Amikdash, dans le premier Beth Amikdash, on voyait comment Hachem était manigle le monde. Et quand on regarde comment Hachem était manigle le monde, il y a différents aspects. Il y a différents aspects. On peut séparer en trois, principalement. Mais donc, le premier Beth Amikdash, endroit d'Ashrat Ashrina, on voit comment Dieu dirige le monde et donc on peut. De quoi on va parler? On va parler des aspects, on va parler des effets. Ouais. Comme on a dit que la Neshama, on peut distinguer les effets que la Neshama a sur le corps. Quand on allait au Beth Amikdash, on pouvait voir les effets que la Shrina elle a dans le monde. On va au Beth Amikdash, on dit, ah, alors ça se passe, c'est ce Maalach-là. Ça se passe, c'est ce Maalach-là. Ça se passe, c'est encore un autre Maalach. Parce que on voit la Shrina, on voit juste. On ne voit pas seulement la Shrina, mais on en voit les effets. Et comme quand nous, on parle à quelqu'un et on voit les effets que la Neshama a sur l'homme. Qu'il parle, qu'il bouge, qu'il est énervé, qu'il est jaloux. Donc, on ne voit pas juste la Neshama, mais on voit les effets de la Neshama. Et au premier Beth Amikdash, on voyait les effets de la Shrina. Et quand on regarde les effets de la Shrina, en fait, il y en avait trois principaux. Mais dans le deuxième Beth Amikdash, on ne voyait pas les effets. On voyait juste qu'elle était là. La Neshama n'était pas encore assez présente pour qu'on puisse voir ce que ça fait, les effets. Mais on pouvait voir qu'il y avait la Shrina. On pouvait percevoir que la Shrina, elle était là. Mais puisqu'on ne la percevait pas jusqu'à dans les effets, alors on voyait juste la Shrina. Et la Shrina, elle est unique. Donc c'est pour ça que dans le premier Beth Amikdash, il y avait trois aspects. Et dans le deuxième, il y avait trois aspects. Quand on dit qu'il y avait la Shrina dans le premier Beth Amikdash, il y avait trois aspects de la Shrina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pouvait voir. Pas juste la Shrina, mais comment elle impactait le monde. Quand on arrivait au deuxième Beth Amikdash, on ne voyait pas comment elle impactait le monde, mais on voyait qu'elle était là. Donc, premier Beth Amikdash, on se concentrait sur les effets. Ouais, comme on a dit, Ménaché, il voyait un pain, il voyait Dieu. Dans les effets, je vois un objet, je vois comment Dieu il s'exprime dans le monde. Ça, c'est le premier Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, il y avait un peu de Esther Panim, mais on ne voyait pas comment Dieu s'exprime dans le monde. Mais on voit qu'il est là. Et donc, premier Beth Amikdash, il y avait trois aspects, donc il y avait trois fautes. Deuxième Beth Amikdash, il y avait un seul aspect, donc il y avait une seule faute. Et ça, Bezrat Hashem, on va développer la semaine prochaine. OK?
Est-ce il y a eu trois fautes parce qu'il y avait une session, il y a trois positions
Il y avait
de
trois.
la.
Voilà, on
Donc,
voyait.
il y a trois fautes pour exprimer.
Pour contrer.
Est-ce qu'il est venu avant? C'est la Chine qui est venue avant.
Puisque la Shrina s'exprimait dans le monde clairement de trois manières,
Ça veut dire que les salariés ne
ouais,
sont pas dans trois domaines différents.
dans trois domaines
Et
différents.
c'est le déclencheur du programme.
C'est ça. Juste, je vais demander s'ils ont
Ah,
des
d'accord.
questions. Voilà. Vous avez des questions ou tout va
Non,
bien?
très d'accord. Ça va, moi.
D'accord. Merci
Bonjour, monsieur.
beaucoup. OK, bon, bah alors, pas le tout. S'il n'y a pas de questions, pas le tout. Au revoir. D'accord, au revoir. Ouais.